Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Il y a de la confiance.
Et plein de petites choses comme ça naturelles qui s'installent.
Il y a de la générosité. Voilà. J'aime ma banque. Je pense qu'on est totalement en ligne.
J'aime ma banque. Sur Twitter, certains s'en sont donnés à cœur joie avec ce slogan accompagnant une photo de Marine Le Pen serrant la main de Vladimir Poutine en mars 2017 en pleine campagne présidentielle, comme un rappel de la fascination exercée par le président russe sur celle qui brigue une nouvelle fois le siège de président de la République française, ce que n'a pas manqué de rappeler le candidat Emmanuel Macron lors du débat d'entre-deux-tours.
Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen. C'est aussi ce qui fait que, on le voit bien, dès qu'il y a des positions courageuses et difficiles à prendre, ni vous ni vos représentants ne sont là.
Une candidate qui a aussi rangé dans un placard le concept de Frexit. Mais comme on dit...
Chasser le naturel, il revient au bungalow.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et en cette veille de second tour de la présidentielle 2022, on va s'intéresser au programme diplomatique de Marine Le Pen.
Roger Cohen du New York Times. À ma connaissance, votre parti a reçu un prêt de 9 millions d'euros en 2014 d'une banque russe. À ma connaissance, ce prêt n'est pas encore remboursé. À un moment où vous voulez devenir la présidente de la République, ce prêt ne pose-t-il pas un problème, une impression possible de dépendance ?
Non, répondra la candidate Le Peniste. Mais la question posée par un journaliste du New York Times lors d'une conférence de presse filmée par l'AFP rappelle de quelle façon Marine Le Pen est contrainte de financer ses campagnes électorales. En 2022, elle ne s'est pas tournée vers une Russie devenue encombrante, mais vers la Hongrie de Viktor Orban. Mais au-delà de cet intérêt financier, c'est la proximité idéologique entre la candidate d'extrême droite et le président russe qui interroge. Bonjour Yves Bourdillon.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service international des Échos. On peut parler d'une convergence idéologique entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine ?
Effectivement, sur des points géopolitiques, économiques, voire sociétaux importants, une vision du monde comparable. On peut lister une défiance instinctive envers le monde anglo-saxon qui va jusqu'à la paranoïa chez Poutine. Une volonté de souveraineté farouche d'un État-nation ou d'un État multinational dans le cas de la Russie, qui devrait être au-dessus des organisations internationales, une conception assez minimaliste des alliances qui sont vécues comme une atteinte à la souveraineté, donc une défiance envers l'Union européenne vécue par Marine Le Pen comme un monstre bureaucratique s'imposant à la volonté des peuples. Et pour Poutine, l'Union est un obstacle à un partage de l'Europe entre Moscou et Berlin, qui est un fantasme récurrent au Kremlin. On peut ajouter aussi certains goûts pour le protectionnisme économique et un culte du chef assez fréquent dans les milieux nationalistes européens. Pour autant, c'est pas tout à fait le même projet politique non plus, parce que d'une part, il n'y a pas de vision d'expansionnisme territorial dans le nationalisme de Marine Le Pen, alors que Poutine pratique en toute décontraction envers ses voisins la politique de la souveraineté limitée théorisée jadis par Brejnev. Il y a aussi un discours de Marine Le Pen anti-élite, anti-une caste, anti-système, qui est absent du discours de Poutine, ne serait-ce que parce que lui, il est à la tête du système. Le chef du Kremlin ne tolère aussi aucun contre-pouvoir, notamment le Parlement, alors que Marine Le Pen réclame la proportionnelle, ce qui est quand même le signe que le Parlement devrait jouer un rôle important à ses yeux. Et puis, on peut aussi noter que l'idéologie de Poutine, finalement, se réduit à une sorte de néo-impérialisme russe qui voudrait fédérer sous la même autorité politique tous les peuples slaves orthodoxes et de langue russe, qui évidemment est absente, voire pourrait être en contradiction avec les conceptions nationalistes d'un dirigeant français. Voilà, donc il y a des points de convergence, mais ce n'est pas tout à fait le même projet politique.
C'est une photo qui marque les esprits encore aujourd'hui, cette poignée de main entre le maître du Kremlin et Marine Le Pen le 24 mars 2017. Que nous dit cette photo, Yves ?
Alors, c'est une circonstance rare, en effet, car elle était prise en pleine campagne présidentielle française et Vladimir Poutine répugne à ce genre de rencontre en période électorale pour ne pas être accusé d'ingérence. Mais il a fait une exception pour aider Marine Le Pen à se doter d'une stature internationale, parce qu'effectivement, serrer la main d'un chef d'État membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, ça peut impressionner les électeurs. À l'époque, on voit d'ailleurs sur la photo, dans le regard de Marine Le Pen, une grande admiration envers Poutine, qu'elle voit comme un patriote sans trop de scrupules, un dirigeant efficace, un rempart efficace aussi contre l'islamisme et un défenseur de la famille traditionnelle, ce qui, à vrai dire, témoigne d'une grande naïveté de sa part liée au fait qu'elle n'a peut-être pas trop diversifié ses sources d'informations et ses conseillers, qui sont très infiltrés par le Kremlin, parce que la vision traditionnaliste de la société et de la famille exaltée par les dirigeants russes, bon, ils donnent rarement l'exemple et ça ne se traduit pas en termes, par exemple, de natalité dans la société russe. Quant à l'efficacité du régime russe, on peut quand même voir qu'elle est fortement indexée sur les cours du pétrole et qu'elle est très limitée par la corruption et l'arbitraire d'un appareil bureaucratico-répressif en roue libre. Et puis quant à l'alliance du monde chrétien contre l'islamisme, il faut aussi se souvenir que Poutine s'appuie depuis son arrivée au pouvoir sur les islamistes de Kadyrov en Tchétchénie qui l'ont aidé à écraser l'insurrection des séparatistes. Et Kadyrov est un homme clé du régime qui commet des crimes de guerre d'ailleurs aujourd'hui en Ukraine et qui avait justifié les attentats contre Charlie Hebdo. Donc cette photo montre une admiration probablement assez naïve.
Jusqu'à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, quelle était la position de la fille de Jean-Marie Le Pen vis-à-vis de la politique russe en Ukraine ?
Oh, c'était assez clair. Elle avait refusé de condamner l'annexion de la Crimée en 2014 au motif qu'il ne s'agissait pas d'une vraie invasion. Visiblement, elle n'avait pas vu ce qu'on appelait les petits hommes verts, les forces spéciales russes qui s'étaient emparées de ce territoire. Elle prétendait que le référendum d'autodétermination était légitime. Elle n'avait pas vu que les militants assez courageux pour s'y être opposés en Crimée avaient disparu ou été torturés. Alors du coup, elle n'est pas la bienvenue en Ukraine. Et jusqu'à la veille de l'invasion, elle jugeait que la tension était essentiellement la faute des provocations de l'OTAN et qu'il n'y aurait pas d'invasion. À vrai dire, ce pronostic « il n'y aura pas d'invasion » était celui, à tort, tenu par les hommes politiques de tous les bords en France.
Mais c'est vrai qu'elle n'y croyait pas. Et après l'invasion, est-ce qu'elle a changé de position ?
Oui, elle a été obligée de changer son fusil d'épaule, évidemment, comme d'autres d'ailleurs, puisque à propos de l'Élysée, par exemple, refusait d'armer l'Ukraine au motif qu'il ne fallait pas mettre de l'huile sur le feu. Donc il y avait eu un chamboulement pour tout le monde. Et maintenant, elle reconnaît que l'invasion russe est une agression inadmissible. Elle a d'ailleurs soutenu lors du débat avec le président sa politique vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine. Alors, toutefois, elle s'oppose toujours aux sanctions sur les hydrocarbures, au motif que ça affecterait trop les ménages français, alors que le gouvernement les juge nécessaires depuis quelques jours, mais au demeurant, c'est une perspective un peu lointaine, enfin du moins encore floue, du fait de l'opposition de l'Allemagne. Par ailleurs, elle n'est pas favorable à l'envoi d'armes lourdes, de crainte que la France soit considérée comme un co-belligérant par le Kremlin. C'est d'ailleurs aussi un peu, sans trop le dire, la position de l'Élysée, qui est, avec l'Allemagne, le seul pays d'importance de l'OTAN à ne pas avoir fourni d'armes lourdes, pour l'instant, du moins officiellement, à l'Ukraine. Alors, la position de Marine Le Pen n'a pas échappé à Kiev, où le président Zelensky a en quelque sorte voté pour Macron mercredi, ou du moins a dit qu'il faudrait que Marine Le Pen reconnaisse s'être trompée sur ce dossier.
Vous avez été interdite de séjour en Ukraine ?
Oui, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs.
Ah si, on sait pourquoi.
Pourquoi ?
Parce que vous aviez nié l'annexion de la Crimée par la Russie.
Ah bah je l'ai pas nié parce que en l'occurrence il y a eu un référendum. Donc ouais. Écoutez, j'irai pas à Kiev. Je vous dis, peut-être qu'il lèvera quand même cette interdiction quand je serai élu.
Et puisqu'elle en parlait le 13 avril sur BFM TV, je vous pose la question, si elle est élue, quelle sera la politique de Marine Le Pen à l'égard de la Russie?
Alors, question tout à fait cruciale sur le papier, ça serait évidemment une victoire pour Moscou, mais il faut aussi reconnaître que l'affaire peut être plus compliquée, puisqu'on avait dit ça aussi de Trump, qui était tenu par de l'argent russe, et qui avait des positions très favorables à la Russie, contre l'OTAN, etc., et pourtant qui n'a pas mené une politique si favorable que ça à la Russie, parce que tout simplement, il y avait en quelque sorte ce qu'on appelle l'état profond, ou du moins le complexe diplomatico-militaire américain qui restait, lui, anti-Kremlin. Donc, si Marine Le Pen était présidente, c'est sûr que ça fragiliserait le consensus atlantiste, le consensus européen actuellement contre la Russie, mais peut-être pas de manière spectaculaire, parce qu'elle sait que la grande majorité de l'opinion publique est choqué par les agissements de Moscou, surtout on va découvrir de plus en plus de crimes de guerre, donc elle n'aurait pas grand-chose à gagner à jouer les Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, donc on peut s'attendre à une position moins opposée à la Russie, mais pas pour autant trop complaisante. Alors elle a effectivement eu des déclarations assez étranges, elle voulait que la Russie redevienne une alliée, enfin elle avait même dit ça de Vladimir Poutine avant de se corriger. Bah, le problème, c'est que la Russie, le régime actuel, ne peut pas devenir un allié d'un pays occidental, vu ses agissements, ses menaces tout azimut et ses crimes de guerre. Donc il faudrait, si elle est élue, qu'elle clarifie rapidement sa position sur le fait que un jour, oui, il faudra renouer des liens avec ce grand pays, mais certainement pas tant que Vladimir Poutine est au pouvoir. C'est beaucoup trop dangereux pour les Occidentaux.
Emmanuel Macron, lors du débat du second tour, a pas mal appuyé justement sur la position russe de Marine Le Pen. Yves, est-ce que cette proximité avec Poutine peut avoir une influence dans la bataille de l'Élysée?
Oui, sans doute, car un nombre non négligeable d'électeurs qui ne faisaient pas partie de son noyau dur, des gens vraiment convaincus par elle, mais qui aurait pu voter pour elle en colère contre le président ou qui sont d'accord avec elle sur l'immigration, sur la sensation de confiscation du pays par une élite de technocrates ou qui sont heurtés par l'inflation, voire la répression des gilets jaunes, aurait pu voter pour elle, mais vont beaucoup hésiter à cause de son indulgence envers un régime qui est quand même inquiétant. Donc, ça pourrait lui faire perdre un point ou deux. À l'inverse, il faut admettre que certains peuvent être séduits par son discours et essayant de ménager Moscou par peur de l'escalade ou par anti-américanisme, par exemple chez Mélenchon. Donc le solde risque d'être plutôt négatif à son détriment, mais pas spectaculaire.
Le 13 avril dernier, Marine Le Pen a organisé une conférence de presse sur le sujet de la diplomatie. Il a été beaucoup question de la Russie et de l'OTAN, comme lorsqu'une élue écologiste a perturbé sa conférence en brandissant une pancarte en forme de cœur montrant une photo de Le Pen et Poutine. Elle semble quand même embarrassée par cette question.
Certainement, oui. D'ailleurs, quand elle a fait rédiger un communiqué condamnant les crimes de guerre, elle a demandé à Thierry Mariani, un de ses proches qui avait visité la Crimée en 2014 et qui façonne un peu sa vision de la Russie et qui a dit que ces crimes de guerre étaient une manipulation des services secrets occidentaux, elle lui a demandé tout simplement de la fermer. Et donc, elle est effectivement embarrassée par les liens de certains membres de son équipe. Alors, elle essaye aussi de reformuler sa vision de la Russie avec notamment une proposition un peu bizarre de partenariat entre l'OTAN et la Russie qui est on ne peut moins à l'ordre du jour dans les circonstances actuelles. Elle prône aussi une solution diplomatique qui est une très jolie formule, mais qui en fait n'a pas énormément de sens puisque on sait bien qu'en géopolitique, la diplomatie, c'est des accords compte tenu de rapports de force économiques et militaires. Et que donc, c'est ce rapport de force avec les batailles des jours qui viennent en Ukraine qui vont donner une issue ou pas. Donc, ça montre bien qu'elle n'a pas de solution très crédible et qu'elle n'est pas à l'aise du tout sur ce dossier.
Ce qui se joue aussi, c'est la place de la France dans l'OTAN.
Oui et non, parce que effectivement, Marine Le Pen ne prône plus la sortie pure et simple de l'Alliance Atlantique, seulement du commandement intégré, ce qui, vous le savez, a été le cas sur décision de Gaulle en 1965, et la France n'est revenue dans ce commandement qu'en 2009. Mais il faut reconnaître que être en dehors du commandement intégré, n'a pas eu un impact si considérable que ça, parce que entre 1965 et 2009, la France était quand même un partenaire fiable de l'Alliance Atlantique en cas de crise. C'est-à-dire que le commandement intégré, c'est qu'un soldat français obéit à un général généralement américain et peut opérer sous uniforme de l'OTAN, mais la France n'est pas pour autant si inféodé que ça, puisque la décision d'une intervention militaire est prise par consensus et aucun pays n'est obligé de participer, comme on l'a vu en Afghanistan et au Kosovo, où certains pays y ont été de manière minimaliste ou voire pas du tout. Chacun participe suivant ses moyens et ses envies. Alors, cela dit, c'est sûr qu'avec Marine Le Pen à l'Élysée, il y aurait une profonde défiance de nos partenaires, et notamment en matière d'échange de renseignements, parce qu'ils vivraient ça comme en fait un sous-marin du Kremlin. Et donc, on perdrait une relation privilégiée avec nos deux grands alliés depuis deux siècles, militaires, le plus proche, c'est-à-dire le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc ça, indépendamment de la position de la France dans l'OTAN, ça aurait une conséquence quand même grave.
Mais lorsque la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, la classe dirigeante française a parlé d'un repli nationaliste et insulaire et prédit un cataclysme pour les Anglais. Or, il n'en est rien. Les Britanniques sont passés de la bureaucratie bruxelloise, qu'ils n'ont jamais supportée, au concept ambitieux de Global Britain, c'est-à-dire le Grand Large. Je le répète, ce n'est pas notre projet. Nous voulons réformer l'Union européenne de l'intérieur.
Se libérer du carcan bruxellois tout en restant dans l'Union européenne, c'est le nouveau projet européen défendu par la candidate du Rassemblement national. Elle l'a encore répété lors du débat de l'entre-deux-tours. L'Europe, une opposition frontale entre les deux candidats à l'Élysée, mais moins qu'en 2017. J'ai appelé Catherine Chatignoux. Elle est chef adjointe du service international des Échos et je lui ai d'abord demandé ce qu'elle avait pensé de la prestation de Marine Le Pen lors de ce débat.
Alors, sur l'Europe, modestement, puisque c'est de ça que je m'occupe, j'ai trouvé qu'elle était restée vague, elle n'a pas beaucoup parlé, confuse, elle n'a pas apporté les clarifications nécessaires, à mon avis, pour qu'on comprenne bien son projet. Elle a répété qu'elle voulait transformer l'Union européenne en une alliance européenne des nations, mais sans expliquer vraiment ce qu'elle entend par là, ni les moyens qu'elle se donne pour y parvenir. Et sur la Russie, j'ai trouvé qu'elle était mal à l'aise. Elle a été attaquée par Macron sur le financement de son parti. Mais du coup, cette attaque de Macron l'a un peu dispensée de s'expliquer sur sa position historique plutôt de complaisance vis-à-vis de Moscou.
Marine Le Pen a indiqué que si elle est élue le 24 avril, son premier voyage sera pour Bruxelles, où elle ira dire à la Commission européenne des choses pas très agréables. La patronne du Rassemblement national a remisé son projet de Frexit, mais elle reste très critique face à une Europe qu'elle juge hors sol et déconnectée.
Oui, c'est vraiment difficile d'imaginer, d'extrapoler, de voir à quoi ressemblerait ce premier contact entre la présidente Le Pen et la Commission européenne, ou sa présidente probablement aussi. Ce dont on est sûr, c'est que Marine Le Pen, elle est anti-Union européenne, c'est-à-dire qu'elle est opposée à l'intégration politique et économique telle qu'elle fonctionne depuis des décennies. Elle ne considère pas cette appartenance comme une chance, elle y voit une dilution de la souveraineté nationale et un modèle d'ouverture sur le monde qui, pour elle, est en grande partie à l'origine des maux de la France. Mais elle n'est pas claire sur ce qu'elle veut faire pour autant. Elle a changé plusieurs fois de position, on le sait. Mais si elle dit qu'elle ne veut plus sortir de l'euro et de l'Union européenne, elle ne dit pas non plus précisément ce qu'elle veut conserver du fonctionnement actuel des institutions et de cette union. Mais il y a une mesure phare de son programme qui, si elle était mise en cause, serait vraiment de nature à remettre fondamentalement en cause l'appartenance de la France à l'Europe. C'est ce projet de référendum pour inscrire dans la Constitution la primauté du droit constitutionnel national sur les normes européennes et internationales. Alors elle fait ça pour pouvoir limiter plus drastiquement l'immigration, les mouvements de personnes et pour mettre en place la préférence nationale pour les emplois et les bénéfices sociaux. Mais cette mesure, elle est en elle-même contraire aux traités européens. En Europe, les États, on ne peut pas faire le tri entre les normes européennes selon qu'elles vous plaisent ou pas. Sortir d'un marché commun, rétablir des contrôles aux frontières intérieures alors qu'il y a l'espace Schengen, ou refuser d'appliquer un traité de libre-échange, parce qu'alors il n'y a plus de vie en commun possible et vous détruisez l'Union européenne. Donc cette révision constitutionnelle, à elle seule, serviendrait à une sorte de Frexit un peu forcé, parce que la France cesserait de respecter l'ordre juridique européen.
Bon, Madame Le Pen raconte comme d'habitude des carabistouilles. Pourquoi ? Elle explique. qu'elle paiera pas la facture du club, qu'elle en changera les règles, mais qu'elle en changera les règles toute seule. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ça veut dire qu'elle veut en sortir, mais qu'elle n'ose plus le dire.
On a entendu le candidat Macron hein, défendant l'Europe à Mulhouse le 12 avril dernier, répondant à une question d'un journaliste britannique. Il reprend l'idée de ce Frexit caché dont vous venez parler sur l'Europe à l'avance masquée, comme le dit Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires européennes.
C'est vrai que c'est un agenda caché dans la mesure où elle assure désormais qu'elle ne veut pas sortir de l'Union, mais en même temps, on voit que cette mesure phare dont je viens de vous parler, mais d'autres aussi, le refus de verser sa contribution au budget européen, c'est autant de déclencheurs possibles d'un Frexit. Donc d'un côté, on assure qu'on ne veut pas sortir, mais de l'autre, il y a plein de choses dans le programme qui sont des casus belli, qui font que l'appartenance de la France serait remise en cause.
Mais ce serait une vraie rupture en termes de diplomatie ?
Ce qui serait une rupture, c'est déjà la prise de distance avec l'Allemagne, puisqu'elle n'aime pas l'Allemagne dans la mesure où elle considère que elle exerce une hégémonie sur l'Europe et elle dit souvent que Macron obéit à l'Allemagne et qu'il est son obligé. En fait, elle lui reproche de tirer probablement de l'Europe plus de profits économiques que nous. Et elle a annoncé il y a quelques jours qu'elle mettrait fin à tous les programmes d'armement communs avec l'Allemagne qui ont été décidés en 2017, notamment l'avion du futur et le char du futur. Donc c'est vraiment des gros, gros projets. Et elle soupçonne l'Allemagne de vouloir diriger ces programmes et d'en profiter. Elle pense que ces coopérations se font au détriment de la souveraineté technologique de la France. Elle veut restituer à la France son statut de puissance. Elle la veut totalement autonome. Et donc, c'est une vision radicalement opposée à celle d'Emmanuel Macron qui veut, au contraire, renforcer la base industrielle et technologique de l'Union européenne en matière de défense. Et donc, renier le couple franco-allemand, ce serait un coup de tonnerre parce que ça fait 70 ans, depuis le traité sur le charbon et l'acier, que la relation avec l'Allemagne, c'est vraiment l'alpha et l'oméga de la politique européenne de la France. Voilà. Et c'est pas par dévotion pour l'Allemagne, mais parce que France et Allemagne sont les deux principales puissances de l'Europe et que rien ne peut se faire en Europe sans une intense coopération et la recherche permanente d'une voie moyenne entre deux positions souvent différentes. Donc chez Le Pen, il y a cette méfiance vis-à-vis de l'Allemagne et des États-Unis et à contrario, cette attirance un peu inquiétante pour des régimes autoritaires. Bon, pense à la Hongrie au sein de l'Europe, mais surtout la Russie, pays avec lequel elle a redit récemment qu'elle voulait opérer un rapprochement stratégique une fois la guerre en Ukraine terminée. C'est pas anodin.
Überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen. On dépasse les frontières, on fait tomber les barrières. Grenzgänger, on est des frontaliers. Le rap, le langage, les mots, les bagages.
Le rap des frontaliers du groupe Zweierpach sur l'amitié franco-allemande. Mais Catherine, s'éloigner de l'Allemagne en Europe, n'est-ce pas prendre le risque de se retrouver isolé de ses principaux partenaires européens et alliés ?
Complètement. Enfin, je me rends pas compte si elle était élue de sa capacité à négocier quoi que ce soit. Quand elle parle d'alliance des nations, qui elle a comme allié en Europe ? Enfin, elle a éventuellement Viktor Orban, qui a des démêlés permanents avec l'Europe justement sur les atteintes qu'il porte à la démocratie, à l'indépendance de la justice. Elle a aussi éventuellement les leaders polonais ultra-conservateurs et aussi un peu anti-européens, anti-migrants. Je suis même pas sûre qu'ils souhaitent radicalement changer les règles de l'Europe, qui leur profitent quand même beaucoup à tous les deux. Donc, avec qui veut-elle faire cette alliance des nations, qui encore une fois serait un détricotage de l'Union actuelle ? Elle est extrêmement isolée. Donc après, ça dépend de sa capacité à trouver des compromis. Est-ce qu'elle voudra aller au bout de ses idées et de ses positions ? Et là, la rupture est évidente. Ou alors, elle discutera avec ses alliés, avec la Commission européenne et ses partenaires, et peut-être qu'ils trouveront quelques aménagements, quelques amendements pour qu'elle puisse dire qu'elle a modifié l'Europe de l'intérieur. Mais en tout cas, en l'état actuel de son programme, c'est une rupture franche et inéluctable avec l'Europe actuelle.
Vous avez parlé de cette réduction unilatérale de 5 milliards d'euros sur la subvention versée par la France au budget de l'Union européenne. Si elle le faisait, il y aurait là aussi des conséquences de la part de l'Europe ?
Oui, parce que le budget européen, c'est quand même le cœur de l'action européenne. C'est vraiment fondamental. Donc, ce que j'ai bien compris, elle veut réduire la contribution nette de la France, c'est-à-dire ce que la France verse moins ce que la France reçoit, à 5 milliards, et aujourd'hui, il y a à peu près, le solde net, c'est 9 milliards. Donc, d'abord, c'est compliqué parce que les budgets en Europe, ça se vote maintenant tous les 7 ans pour des raisons de praticité et de flexibilité. Donc, le budget pluriannuel 2021-2027, il a été voté en 2020. Donc, c'est encore plus compliqué d'intervenir en plein exercice. Mais sur le fond, C'est pareil, c'est un casus belli que de décider qu'on verse moins d'argent au budget européen. C'est pareil, c'est une rupture majeure dans le contrat. Donc voilà, après, là aussi, elle peut négocier. Après tout, le Royaume-Uni l'avait fait. Hein, rendez-moi mon argent, disait Thatcher, et on lui en avait rendu un peu. Mais ce sera forcément à la marge, elle ne récupérera pas 5 milliards. Ou alors, encore une fois, c'est la rupture, c'est les tribunaux, c'est la Cour de justice, c'est les sanctions, les astreintes, etc. On rentre dans un autre mode de relation avec l'Europe.
Merci Catherine Chatignoux et Yves Bourdillon du service international des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des Échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.